Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichamp.
Bienvenue au Club Média RH, avec comme invité aujourd'hui en ouverture un invité témoin, c'est une femme. Elle est avocate dans un cabinet spécialisé, Taylor Wissing, et on va parler du télétravail, mais pour les étrangers. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe pour les personnes en télétravail, les Français à l'étranger? Deuxième séquence avec notre chroniqueuse RH, Nadège Joyot, qui a une très bonne idée. Inviter un auteur, une auteure, qui va nous parler du pouvoir de l'humour en entreprise. Moi, je suis pour. On va en savoir plus avec l'auteur. Et on terminera par la start-up qui recrute. Il s'agit de Jérôme Pasquier, fondateur de Pekin. Et alors là, le sujet est formidable. Leur sujet, c'est la perte d'objets en hôtel. Ça a dû vous arriver. À tout de suite.
BFM Business, le Club Média RH, l'invité témoin.
L'invité témoin, c'est une avocate. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer, Mounira Frey.
Bonjour.
Alors, vous êtes avocate spécialisée dans le droit du travail.
Tout à fait.
Dans un grand cabinet, hein. Vous êtes nombreux, vous êtes
oui.
Associés?
Non? Non, pas encore.
Pas encore. Alors, justement, faites bien de le dire. On va parler au patron, là. Ça va pas? Il y a des femmes?
Oui. Ah. Beaucoup de femmes. C'est bon. Profession représentée où les femmes sont beaucoup représentées.
On va parler du télétravail lié aux Français à l'étranger. C'est un vrai sujet. Personne ne l'a encore abordé, on est ravis de le faire avec vous. Alors parlons d'abord de votre cabinet, il s'appelle Taylor Wissing.
Tout à fait.
Hein, c'est bien ça?
C'est bien
ça. C'est un cabinet français?
C'est un cabinet français intégré dans un réseau anglais-allemand. Et nous sommes à Paris une centaine d'avocats.
Ah quand même?
Oui. Voilà.
Enfin, avec beaucoup de femmes. Beaucoup d'avocats de femmes. Voilà. Alors, vous êtes une experte du droit du travail et vous nous avez, on nous a proposé ce sujet, c'est une excellente idée. C'est vrai que quand on pense au télétravail, on pense au niveau national, le français. Oui. Voilà. Mais on oublie. Est-ce que vous savez combien il y a de Français à l'étranger, au fait? Est-ce que vous avez le chiffre exact en tête?
Non, je n'ai pas connaissance du chiffre exact, mais.
Il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde, effectivement, il y a beaucoup de monde, et c'est une demande qui se développe, effectivement. Avec, suite à la pandémie, on a de plus en plus de demandes sur le télétravail,
des clients. De la part des entreprises.
Qui nous posent des questions sur comment organiser ce télétravail à l'étranger.
Oui, parce que jusqu'à présent, alors, comment ça fonctionne pour les. D'abord, c'est ce qu'on appelle les expats, on est d'accord?
C'est pas tout
pas
à fait
forcément.
La même chose, pas forcément. Le télétravail à l'étranger, ça peut être aussi une période limitée dans le temps,
oui.
30 jours, 1 mois, 3 mois.
Une mission.
Ça peut se raccrocher à une mission. On connaît traditionnellement le schéma des expats et des détachements.
Bien sûr.
Mais le télétravail à l'étranger, c'est je prends mon ordinateur, je suis un travailleur nomade, un digital nomade, comme on dit aujourd'hui.
Oui.
Je pars et je m'installe pour quelques mois à l'étranger, puis pour vivre une expérience, et je reviens peut-être en France pour poursuivre ma carrière.
Alors, quand on
mais
est
pas forcément de manière pérenne.
Pas forcément de manière pérenne. Mais quand on est en poste à l'étranger, que ce soit, j'allais dire, en CDD, pour une période courte ou une période longue, de toute façon, on dépend du droit français.
Là encore, c'est un sujet à aborder en amont. Quand vous voulez envoyer un salarié à l'étranger, effectivement, il y a cette préparation à faire, il y a le sujet du droit du travail à appliquer, et c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux parce que ça implique des conflits de loi parfois, et effectivement, le droit du travail peut rester applicable,
oui.
Mais il faudra tenir compte également des dispositions impératives du pays d'accueil, dans le cas échéant applicable.
Alors justement, pour ceux qui nous écoutent sur BFM Business Radio, ou qui nous regardent sur BFM Business TV, on a envie de savoir, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes décideurs dans ce domaine-là qui vont être intéressés par votre propos. Quels sont d'abord les points à anticiper en tant qu'employeur quand on accepte le télétravail longue distance ou à l'étranger?
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre sur ce télétravail à l'étranger. On espère que ce cadre arrivera. Il n'y a pas de cadre. Mais les points à anticiper au préalable pour l'employeur, c'est tout d'abord quel droit va régir cette relation de travail qui est quelque peu inédite, finalement,
ouais.
de s'installer temporairement à l'étranger.
C'est ce qu'on commençait à dire.
Ça prend sous différents angles. Il y a différentes conséquences de ce télétravail à l'étranger, à la fois dans matière contractuelle, quelle loi va être applicable au contrat de travail ? Est-ce qu'on va rester sur la loi d'origine, le droit français par exemple, qui aurait été choisi par les parties, ou est-ce qu'on va
basculer peut choisir.
Oui, tout à
Imaginons
fait.
Imaginons que je suis une entreprise, j'envoie quelqu'un à New York.
Vous
je peux décider, il y va pour un mois, deux mois, je peux décider que cette personne continuera
tout à fait.
À être
vous
régie par le droit français.
Inclure dans le contrat de travail
D'accord.
une clause de choix de loi applicable au contrat. Néanmoins, on a des dispositions européennes qui sont également des outils qu'on peut utiliser et qui nous donnent des pistes sur les conflits de loi éventuellement et comment les régler.
Alors comment ça se passe justement ? Prenons l'Europe. Quelqu'un qui va travailler en Espagne, en Italie, en Pologne ou je ne sais où. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, par exemple ? Est-ce que le télétravail est partout régi de la même manière ?
Non, chacune des dispositions, chacune des législations nationales a ses propres règles en matière de télétravail.
Prenons
en
des
France,
exemples.
Nous avons notre télétravail régi par le Code du travail, par l'accord national interprofessionnel de novembre.
Oui.
Dans les autres pays, ils ont également leurs propres dispositions nationales et c'est là que le conflit risque de se poser lorsque vous allez télétravailler à l'étranger. Mais néanmoins, on a des outils européens qui sont aujourd'hui dédiés à la mobilité professionnelle, les règlements européens, mais dans lesquels on peut trouver des réponses pour, en tout cas, pallier le vide juridique actuel sur le télétravail à l'étranger.
Ça, c'est côté employeur. Alors, évidemment, il y a la question aussi côté salarié.
Oui, la même question se pose, effectivement, côté salarié. Quels sont les points à anticiper pour un salarié qui part à l'étranger ?
Alors, quels sont les points, justement ?
Il y a l'aspect fiscal, qui est une notion très importante, effectivement, puisque, normalement, l'assujettissement du salarié à l'impôt sur le revenu se fait dans le pays dans lequel il exerce son activité. Donc, quel va être cet assujettissement ? Le déplacement de la résidence fiscale aura potentiellement une conséquence sur l'imposition du salarié dans le pays d'accueil dans lequel il exercera son télétravail pour une durée déterminée.
Alors, Mounira Frey, est-ce que le télétravail à l'étranger correspond encore à des cas particuliers ? Parce que jusqu'à présent, c'était le cas.
Oui, il y a toujours...
C'est pas la majorité.
Le
travailleur à l'étranger, c'est pas la majorité des cas. Donc, celui qui va partir à l'étranger, c'est un cas à part, quoi. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Ça commence à se démocratiser.
Oui.
Donc, en fait, on a de plus en plus de situations où des salariés, parfois pour des durées limitées, à la suite d'un congé, décident de rester quelques semaines, quelques mois, ou dans le cadre, à la suite d'un week-end à l'étranger... poursuivre cette activité.
Alors,
ça va s'ouvrir effectivement à une plus grande population et à une plus grande population salariale.
Alors c'est étonnant parce que j'ai vu sur une chaîne de télé, peu importe laquelle, un reportage, mais c'était pas en France, c'était des Américains, des citoyens américains, qui avaient décidé d'aller, et c'était pendant le Covid, d'être en télétravail sur une île paradisiaque.
Le rêve.
Bon, le rêve, voilà. Alors est-ce qu'il y a des règles justement à respecter pour quelqu'un qui, dans une période particulière, décide d'aller vivre à l'étranger, je dis n'importe quoi, pendant un mois, sur une île avec au bord de la mer, au soleil. Comment se gère le télétravail dans ces cas-là ? Comment vérifier ?
Une bonne connexion Internet, c'est très important.
Oui. C'est pour le salarié.
On pense pas. Ah oui, c'est un point important.
Mais pour l'employeur, comment peux-tu savoir si la personne est au travail ?
Effectivement, la recommandation que nous on fait aujourd'hui à nos clients, c'est d'encadrer cette pratique justement, de ne pas la laisser être... entre guillemets, sauvage, finalement, de prévoir une charte, de prévoir un accord dans lequel vous définissez finalement les catégories de postes éligibles à ce travail à l'étranger, mais également les durées, et de prendre vraiment de prendre le sujet à bras-le-corps pour faire face aux incertitudes actuelles.
Je parlais de ce reportage que j'ai vu aux États-Unis. Comment ça se passe en France ? Quelle est la tendance, d'ailleurs, selon vous ?
Alors, il y a semble-t-il, selon des études, de plus en plus d'employeurs qui seraient favorables au développement du télétravail. Il y a des entreprises qui commencent à le mettre en place.
Bien sûr, en France.
En France, oui, effectivement. Oui. Vous avez eu récemment, il y a un accord collectif qui a été conclu dans une entreprise française pour prévoir cette pratique du télétravail à l'étranger. Ça a été le cas. Et donc, elle le limite à 30 jours.
On peut
notamment.
Les citer, non ?
Oui, je crois que l'accord est passé dans la presse. C'est TUI France.
Oui.
Vous avez également Publicis qui a mis en place la possibilité pour les salariés d'exercer une activité à l'étranger dans une certaine limite. Et je crois qu'aujourd'hui,
On parle bien du télétravail, l'activité à l'étranger.
Oui, de télétravail,
c'est répandu.
Effectivement. De télétravail à l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui, les demandes qui ont été faites à publiciste s'élèvent autour de 10 000, il me semble. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Hein. Oui, 10 000 salariés qui font la demande. C'est un chiffre important. Ça dénote d'une demande qui devient de plus en plus, plus importante.
Comment se combinent les législations du pays de l'entreprise et du pays du salarié en télétravail? C'est ça le plus dur.
C'est ça le plus dur.
Est-ce que vous avez des exemples concrets en tête?
Alors, vous avez, par exemple, vous êtes salarié français, vous êtes attaché à votre régime de sécurité sociale française, vous partez à l'étranger pour quelques mois, restons en Europe, puisqu'on a des outils assez bien connus.
Oui, c'est ce que vous disiez,
En Europe.
C'est assez codifié, l'Europe c'est codifié.
C'est codifié. Dans ce cadre-là, sous quel régime vous allez être mis en place? C'est une question qui revient très régulièrement. Est-ce que je dois payer, en tant qu'employeur, les cotisations de mon salarié dans le pays d'accueil, en France? Généralement, la réponse, on la trouve dans le règlement européen, en fonction du temps passé par le salarié dans l'état de résidence. Et effectivement, si le salarié ne travaille pas plus de 25% en dehors de l'état de résidence, il restera rattaché, par exemple, l'état de résidence, disons que c'est la France, restera rattaché au régime français, ce qui est très important pour les salariés.
Mounir Afré, est-ce qu'il existe des évolutions réglementaires à venir en 2023?
On l'espère. Aujourd'hui, il y a eu, pendant la crise sanitaire, des dispositions qui ont été mises en place, une décision au niveau européen qui a été mise en place pour harmoniser le statut des frontaliers transfrontalier. Ce régime qui était temporaire et qui devait prendre fin, particulier effectivement, devait prendre fin et a finalement été prorogé jusqu'en juin 2023. Est-ce que ce sont là sûrement les prémices d'une législation à venir?
Est-ce que c'est un signe?
C'est un signe. À mon sens, c'est un signe. On le souhaite en tout cas.
Et peut-on imaginer des règles communes à l'international qui soient claires pour tout le monde? Je suis français, je veux aller travailler au Portugal, aux États-Unis, au Guatemala. Eh bien, les règles dans le monde seraient. Je rêve.
Ce serait un beau projet, mais plus difficile à mettre en œuvre, à mon sens.
Oui, c'est en fonction, c'est au cas par cas.
Oui, exactement.
Voilà. En tout cas, le télétravail à l'étranger, ça se développe.
Ça se développe.
Et pas forcément aux Bahamas, les pieds dans l'eau, avec son ordinateur portable. Je suis au travail. Et en dessous, on est en maillot de bain. Vous restez avec nous, c'est un sujet passionnant, vous savez.
C'est un sujet passionnant.
C'est un vrai sujet. Côté emploi. Alors, est-ce que de votre côté, vous pensez que l'humour a sa place dans l'entreprise?
Ah, parfaitement.
Ah bon, ça va, vous m'assurez. Vous me permettez, c'est une perche pour le sujet décryptage qui vient avec notre chroniqueuse RH. Nous avons le plaisir de recevoir une experte, Le pouvoir de l'humour en entreprise. C'est un livre que Nadège Joyot va nous décrypter. Décryptage.
BFM Business, le club média RH, décryptage RH.
Bonjour Nadège, vous avez l'air... Ouh là, vous êtes sérieuse là.
Bonjour Alexandre.
Je vais
vous parler du rire, donc non, je ne suis pas sérieuse du tout. Jamais.
C'est bien le pouvoir de l'humour, je ne me suis pas trompée.
Oui, alors on va parler plus précisément des pouvoirs extraordinaires, non pas du corps humain, mais de l'humour en entreprise et finalement pour soi, pour son propre leadership, en tout cas en entreprise. Alors pour en parler, Vanessa Marcier, qui est l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Erol, qui s'appelle Le
Bonjour
pouvoir
Madame Marcier.
De l'humour.
C'est vous l'auteuse?
C'est moi l'auteuse. L'auteur avec un E. Et alors moi, ce que j'en dis, c'est que c'est un ouvrage aussi rafraîchissant qu'utile. Oui. Et puis surtout, c'est la période à mettre au pied du sapin de son manager préféré et de son manager pas préféré. C'est d'ailleurs mieux, même, en fait. Et je vais vous donner quand même un petit chiffre qui, moi, m'a sidéré en ouvrant cet ouvrage. Figurez-vous, Alexandre, que notre capacité à rire et notre sens de l'humour chute drastiquement autour de 23 ans. C'est-à-dire à peu près, donc, au moment où l'on intègre le monde du travail. Et ce sens de l'humour, cette capacité à rire, reviendrait vers 70 ans. Donc, sans conclusion, on peut dire qu'on se fend davantage la poire à l'EHPAD qu'en entreprise. Donc, ça reste encore un peu.
70 ans n'est pas forcément en EHPAD.
Non, mais ça peut être.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas gentil, ça, pour ceux qui ont 70 ans.
Plus ça va, plus on rit, c'est ce que je veux vous dire.
Mais parce qu'on est détaché.
Et voilà, c'est quand même super ballot parce que l'humour a vraiment des pouvoirs, que je disais, extraordinaires en matière d'innovation et de performance pour les entreprises, en matière de leadership. Alors, on va en parler avec Vanessa Marcier, comme je le précisais. Allez, Vanessa Marcier, qui s'y connaît très bien puisqu'elle est elle-même comédienne, humoriste, plus de 200 stand-up à son actif.
Ah mais oui,
pas
carrément.
Que, puisqu'elle est également docteur en sciences de l'information et de la communication. Je ne vais pas vous faire le CV parce que ça va passer, on va y passer un petit peu de temps. Et elle est surtout conseil en entreprise sur l'humour et le leadership. Alors Vanessa, pourquoi le rire et l'humour sont-ils aussi importants pour l'entreprise et l'innovation?
Alors, il faut savoir que l'humour a beaucoup de bénéfices, apporte beaucoup de bénéfices à une entreprise. Par exemple, elle peut aider à créer plus de cohésion dans une équipe, elle peut faire en sorte que la communication soit plus fluide, elle nous rend plus créatifs, elle relaxe les employés, quand on rit on est beaucoup moins stressé, elle permet de réduire la distance sociale, et tout ça... Et il y en a bien d'autres. Et tout ça, ça permet effectivement d'avoir une meilleure performance dans l'entreprise.
Alors, est-ce que votre discours, c'est dire il faut plus d'humour en entreprise parce qu'il n'y en a pas? Ou bien, est-ce que c'est un souhait, un vœu pieux? Ou bien, est-ce que... Expliquez-nous.
Alors, c'est pas seulement un vœu pieux. Parce que de nombreuses recherches nous disent et nous crient à quel point c'est important. Toutes les recherches scientifiques nous disent qu'il n'y a que des bénéfices, il n'y a que des pourcentages importants, et en plus, les employés le réclament. Il y a des sondages qui sont sortis et qui nous disent que plus de 90% des employés pensent qu'un manager devrait avoir le sens de l'humour. Donc c'est...
Est-ce qu'on voit dans l'ouvrage de Vanessa Marcier, c'est qu'en fait, il y a un point essentiel qui est la prise de risque. Quand on est bien, quand on rigole, quand on est en confiance avec ses collègues, on est davantage enclin à prendre des risques. Et la prise de risque, ça veut dire quoi? La prise de risque, c'est l'innovation. Et l'innovation, c'est quoi? C'est la performance. Mmh. Et ça, c'est très très bien démontré dans l'ouvrage de Vanessa Marcier, qui d'ailleurs combine à la fois, vous venez de les citer, des études, des exemples. Et franchement, on se marre en fait à lire ce bouquin.
J'espère.
Et alors, moi, je me suis bien marrée. Et alors, vous dites également, Vanessa Marcier, que c'est un puissant outil pour développer son leadership. Pourquoi?
Oui, c'est un puissant outil. Pourquoi? Parce que le manager, au final, c'est celui qui a la responsabilité de motiver ses équipes, mais qui est également garant de leur bien-être. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus motivant que de pouvoir se marrer, que de pouvoir rire avec ses collègues?
Alors, justement, donnez-nous des exemples concrets, parce que j'imagine que c'est l'objet du livre.
Oui.
C'est ça?
Alors, des exemples concrets. Donc, j'ai fait des études de cas.
Le pouvoir de l'humour.
Oui, des études de cas sur de nombreuses sociétés qui l'utilisent et qui en ont fait une valeur clé. Il y a des sociétés comme Southwest Airlines, une compagnie américaine, qui l'utilise dans le cadre de sa relation client, par exemple, mais qui, pour que ça soit une valeur qui transpire chez ses employés avec le client, l'utilise également en interne.
Et par exemple,
elle va l'utiliser dans son onboarding et même dans son processus de recrutement. Donc ils vont avoir une grille de questions qui vont pouvoir arriver à déterminer le sens de l'humour du candidat, et ça permet de savoir si ce candidat et son sens de l'humour vont pouvoir coller aux valeurs de l'entreprise.
Alors parlez-nous quand même de Ben & Jerry's, parce que ça c'est lourd. C'est super.
Ben & Jerry, tout le monde le sait, c'est la société de la crème glacée, la compagnie de crème glacée, américaine. Et donc ils ont mis en place toute une série de stratégies pour que l'humour fasse partie de la culture de l'entreprise. Mais surtout, ils en ont une qui est extraordinaire, c'est l'échec est célébré chez Ben & Jerry. Comment? Eh bien, quand une saveur est rejetée ou qu'elle est retirée du marché, on va littéralement l'enterrer. On ne va pas l'enterrer de façon virtuelle, on va l'enterrer dans un cimetière qui est accessible en ligne. Vous allez sur leur site internet, vous pouvez accéder au cimetière des saveurs. Mais également en vrai, si vous avez dans leur usine, dans le Vermont, vous pouvez visiter le cimetière des saveurs et vous pouvez même, plus qu'à Halloween, vous pouvez ressusciter une saveur. Donc s'il y a assez de demandes, vous pouvez ressusciter une feuille.
Ça ne va pas jusqu'à la fin quand même. Je prends un exemple, vous êtes viré, waf waf, non, c'est de l'humour.
Non, ça ne marche pas.
Pour virer les gens, on n'utilise pas l'humour.
D'ailleurs,
toutes les situations ne sont pas propices à l'humour.
On est quand même là pour trouver des solutions. Alors moi, je m'interroge un peu. Quand vous avez passé 25 ans à ne pas rigoler, tout le monde n'est pas Bozo le clown et pas Mr Bean, vous apprécierez la modernité de mes références. Comment on fait quand on a été sérieux pendant 25 ans, parce qu'il faut faire sérieux, du jour au lendemain? C'est inné, c'est une compétence qui se développe. On fait comment, en clair?
Et est-ce que ça prend, l'humour?
C'est ça.
Ça prend. Ça, bien, oui.
Tout n'est pas perdu pour nous.
Exactement. Alors, bien entendu, il y a des personnes qui sont plus familières, qui ont tout de suite le bon mot avec la bonne personne au bon moment. Et pour les autres, ça s'apprend. En fait, c'est une compétence qui peut se développer. Et dans le livre, je donne quelques trucs, comme par exemple, il faut connaître, la première chose pour moi, c'est de connaître son sens de l'humour. Ça, bien s'identifier, avoir cette intelligence émotionnelle de bien se connaître et également connaître les autres, donc faire un petit audit pour savoir quel est mon sens de l'humour, quel est celui des autres. Et il y a aussi un framework que j'ai appelé le 3PQ,
petite méthode, donc
voilà. Le P3Q pardon, petite méthode qui est donc se poser les bonnes questions avec l'humour, pourquoi est-ce que je l'utilise, quel est mon but. Ouais. Avec qui je l'utilise, quel type d'humour j'utilise et quand est-ce que je l'utilise.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque de l'humour descendant? Je m'explique. Je suis manager, je suis le patron, j'ai une équipe, j'ai de l'humour, tout le monde doit rire. Mais je suis pas le patron, je suis le salarié, j'ai de l'humour, est-ce que le patron va... Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de gêne?
Ah oui, il y en a souvent. Et c'est le problème du patron qui ne maîtrise pas nécessairement l'humour.
Ben voilà, c'est ça.
Et tout le monde se sent obligé de rire parce que c'est lui qui a le plus haut statut hiérarchique.
Ça, c'est moche, ça.
C'est justement ce que j'essaie de combattre en donnant les bons outils pour avoir le sens de l'humour, mais qui fasse rire, entre guillemets, spontanément.
Et surtout, il y a une myriade de formes d'humour que moi, j'invite à aller là-dedans. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'humour affiliés, pygmatiques, autodestructeurs, hyperboliques, farfelus. On peut faire son marché là-dedans. Il y a quand même une dernière question qui se pose. Il faudrait pas que cette obligation de rire devienne une injonction supplémentaire.
Ben voilà.
Je pense que les salariés, ils n'ont quand même pas besoin de ça en ce moment et jamais. Comment s'en prémunir? Parce qu'il y a quelques semaines, il y a un collaborateur dont le licenciement a été annulé par la Cour de cassation qui a été viré parce qu'il n'était pas assez fun. C'est quand même un peu, encore une fois, moche.
Là, vous avez raison.
On fait comment pour
s'en prémunir? Il y a des dérives possibles, il y a des dangers possibles.
Bien sûr. L'idée, c'est pas que d'en faire une injonction, parce que l'idée principale de l'humour, c'est quand même de créer du lien, c'est d'améliorer les relations humaines. On parle de humain à humain. L'idée, c'est d'en faire un filtre, de pouvoir s'en servir. Par exemple, vous êtes dans une situation, vous allez à un entretien. Pour le candidat, ça va lui permettre de déterminer, comme je le dis avant, si la culture de l'entreprise est bonne. Et pour le recruteur, ça va lui permettre de voir, est-ce que cette personne a un type d'humour qui va coller avec l'équipe, avec dans lequel on va l'inclure. Donc ça permet vraiment de filtrer, ça permet d'avoir une bonne ambiance au travail et d'avoir cette sécurité psychologique.
Ça, c'est bien important.
Qui permet d'être créatif, d'avoir de l'innovation.
Vous êtes d'accord qu'en même temps, l'humour, ça ne se décrète pas. Ça s'improvise éventuellement, non?
Ça peut s'improviser, bien sûr, ça s'improvise, mais on peut créer des environnements qui sont propices.
Et en tout cas, vous avez raison, vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est une attente des collaborateurs. Tous les sondages le prouvent, il y a aujourd'hui une attente, surtout dans le monde morose dans lequel la période que l'on traverse, il y a un besoin de retrouver ça en entreprise.
Rétablissons l'autorisation de rire.
Exactement, rétablissons l'autorisation de rire, et il faut savoir qu'un manager.
Oui. Allez.
Qu'un manager qui utilise l'humour est vu comme étant 27% plus motivant pour ses équipes. Donc
parfait.
C'est pas négligé.
On est ravis. Alors on va rappeler le titre. Le pouvoir
de l'humour. J'ajouterai extraordinaire de l'humour. Aux éditions
Erol.
Pour les sapins de Noël, pour ceux qui n'ont pas d'idée.
Est-ce qu'il vous est, puisqu'on parle on a parlé de voyageurs et de Français qui vont travailler à l'étranger, et les règles du télétravail, est-ce qu'il vous est arrivé d'oublier des choses dans les hôtels, dans votre chambre d'hôtel?
Ah ouais, tout le temps.
Tout le temps, vous? Ça m'étonne pas.
Ma dignité.
Jamais ma dignité, mais tout le reste.
Eh bien, écoutez, en tout cas, la start-up qui arrive et qu'on va essayer d'aider, puisqu'elle a 6 postes à pourvoir, cette start-up Pekin, et Jérôme Pasquier en est son fondateur, a une excellente idée. Elle a créé un outil pour aider dans la perte d'objets en hôtellerie. C'est assez astucieux et ça cartonne. Voici la découverte de la start-up qui recrute.
BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute.
Bonjour Jérôme Pasquier.
Bonjour.
Je suis ravi de vous rencontrer. Donc vous avez c'est ça. L'idée, c'est de se dire. Vous avez des chiffres d'abord.
Ah oui, oui. 10 millions d'objets qu'on oublie.
10 millions d'objets qu'on oublie dans les hôtels.
En France.
Par an.
Dans les 18 000 hôtels de France. Oui.
Et rien qu'en France.
Et rien qu'en France.
Combien vous dites?
10 millions.
10 millions, mais ça va de quoi à quoi?
Alors, il y a différentes gammes. Pour mesdames, c'est le lisseur de cheveux. En ce moment, on en retrouve pas mal.
Quand on sait combien ça coûte, franchement.
on en restitue pas mal. Et puis également, pour l'high-tech, tous les chargeurs de PC qu'on peut avoir avec nous, ça va au textile,
ça peut aller
à cosmétique.
Est-ce que ça peut aller jusqu'à des objets de valeur?
Alors, ça va également jusqu'à des objets de valeur, oui. Alors là, on est un peu plus précautionneux, évidemment, mais c'est toujours difficile de savoir combien vaut un bijou, par exemple.
Bien sûr.
Et donc, c'est très très diversifié, et puis des accessoires.
Alors, votre idée, elle est excellente, c'est de dire, il existe des milliers et des milliers d'hôtels de tout type, et de, avec ou sans étoiles, dans France, là on s'adresse à la France.
Oui.
Et,
pour l'instant.
Pour l'instant, pour vous. Et votre idée, je vous laisse la développer.
Eh bien écoutez, c'est simple, quand vous allez à l'hôtel et que vous oubliez un objet derrière vous, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Par contre, dans chaque hôtel, il va y avoir une femme de ménage ou un personnel de chambre qui va faire le ménage, et donc il va retrouver les objets. Et donc... comme on connaît via votre réservation vos coordonnées, on va vous proposer de vous allez retrouver votre photo sur votre smartphone par email ou par SMS et en trois clics vous allez pouvoir vous le faire restituer soit sur place si vous êtes encore pas loin de l'hôtel ou sinon si vous êtes déjà parti vous êtes dans une nouvelle ville et ben on va vous proposer de l'expédier avec deux formats économique ou express.
Date de création de la société on vient de voir si vous nous regardez sur BFM.
Fin 2017, ouais, c'est ça.
2017, vous êtes le siège est à Nantes.
Oui, en start-up nantaise, absolument.
10 salariés, 300 clients déjà,
oui.
Et ça continue d'augmenter, bien sûr, je répète, des établissements de toute taille.
Oui.
De qui avez-vous besoin? 6 postes à pourvoir.
Alors, plutôt des profils commerciaux, parce qu'on est en pleine accélération, le produit a fait ses preuves, on a voilà, fait plus de 20 000 expéditions dans 75 pays dans le monde,
oui.
Mais à partir d'hôtels français, et donc je suis vendredi à Londres pour démarrer notre premier Marriott City Hall à côté de Big Ben, donc on démarre à l'international et on va avoir besoin de profils grands comptes pour les grands comptes de l'hôtellerie, type Accor, Marriott, Hyatt.
Mais vous cherchez des commerciaux qui soient bilingues quand même, de peut-être.
Alors, des country managers qui pourraient ouvrir, par exemple, l'Irlande et l'Angleterre, le Benelux, l'Espagne, et puis un
Barcelone, profil, c'est ça, Bruxelles,
bah voilà, tout
Londres,
à fait, absolument. C'est là où on va se positionner dans un premier temps, côté Europe de l'Ouest, et puis également du service client.
Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions pour engager les gens? Est-ce que vous avez les sous pour les payer?
Tout à fait. Alors, on est en pleine croissance, et nous, Romain, on est en mode start-up. En fait, l'idée, c'est de continuer à accélérer, et donc pour ça, on investit. Et donc, on a déjà des professionnels de l'investissement, donc des fonds d'investissement qui nous ont rejoints. Et puis là, maintenant, c'est plutôt des family office et des business angels. Et on fait une plateforme de crowdfunding sur Tudigo, tudigo.com.
Merci Jérôme Pasquier, je vous souhaite bonne chance et à vous tous et à vous toutes. Voilà, je suis ravi de vous avoir rencontré, on a appris plein de choses et je sais que si je vais à l'étranger, je vais faire du télétravail, il faut que je vous appelle. Merci à vous. Merci à vous tous.
Merci
à toutes.
Merci.
Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, le week-end prochain, on reviendra avec d'autres postes à pourvoir, d'autres invités et d'autres sujets. Salut.
BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.